la chronique « Je lire » proposée par Henri Landré.
Je lire dehors à la campagne, avec les oiseaux. Je lire un livre de Céline Minard, « Faillir être flingué », qui a pas mal fait parler de lui, publié chez Rivage, ici dans une version poche, il y a déjà quelques temps, précisément en 2013 pour la première édition. Et ce livre est adapté au théâtre par Guillaume Bayard, ça s'appelle « Faillir être flingué » et ça se joue au lieu unique, jeudi 28 et vendredi 29 avril prochain. C'est pour cette raison notamment, pour la raison d'une rencontre publique, une lecture sandwich qui aura lieu au salon de lecture du lieu unique le vendredi 29 à midi, aux alentours de midi, en compagnie des protagonistes de cette pièce, que je lis ce livre pour voir un peu de quoi il s'agit. Et surtout, je me questionne comment une adaptation théâtrale peut être faite à partir de ce livre extrêmement empreint de paysages, de grands espaces américains. C'est un western, tout simplement, écrit par une Française. Alors, comme presque de coutume maintenant dans cette chronique, je vous lis là où j'en suis rendu. Page 115 d'un livre qui en fait un peu plus de 300. Silas n'avait jamais vu une barbe aussi dure. Elle était bleue à force d'être noire et son implantation était si serrée qu'il avait l'impression de tondre un mouton. Néanmoins, c'était le seul caractère que l'homme qu'il rasait partageait avec Lovin, car pour le reste, Silas aurait plutôt dit qu'il tenait du loup. Grand et flanqué, habitué à maintenir une vigilance continuelle, il observait tout ce qui entrait dans son champ visuel comme si sa vie en dépendait. Ce qui était peut-être le cas. Ou comme s'il n'avait pas vu une échoppe de barbier depuis des lustres. Ce qui était effectivement le cas. Il avait répondu aimablement, quoique brièvement, aux salutations de Silas. Il avait posé ses deux sacoches jumelles sur le bras de son fauteuil de coiffeur et s'y était installé avant d'y être invité. Il voulait une coupe de barbe et de cheveux, mais surtout pas de lotion émolliente. Le mot avait frappé Silas. Il avait aiguisé son rasoir sur la bande de cuir en silence pour que son client commence à apprécier sa dextérité à l'oreille. Il avait fait monter le savon dans son bol de bois à l'aide du blaireau qu'il venait de recevoir de Denver par la dernière diligence. La texture était si fine qu'il lui sembla étaler de la crème fouettée sur la face d'un sanglier. À cette pensée, il avait réprimé un sourire. Et alors qu'il approchait la lame de la tempe du loup solitaire dont les bottes pointues dépassaient de son fauteuil, l'autre lui avait saisi le bras avec une telle poigne qu'il avait failli lâcher le bol. « Qu'est-ce qui vous fait rire, barbier ?» Silas avait repris sa respiration et lui avait répondu qu'il souriait de plaisir parce que c'était la première fois qu'il utilisait son blaireau et qu'il avait l'impression qu'il n'avait pas perdu son temps en le commandant chez Fields en ville. « Parce qu'ici, ce n'est pas une ville ?» avait demandé Zébulon. « Bien sûr que si, monsieur, c'est une ville. Simplement, on n'y trouve pas encore tous les articles raffinés de la civilisation. »« Et vous le déplorez ?»« Pas vraiment, » admit Silas. « Sur quoi ?» Ils avaient fait plus ample connaissance et d'une façon subitement facilitée. Du moins, c'est ce qu'il parut au barbier. Zeb avait voulu savoir quand passait la diligence qui rendait de si grands services. Silas lui avait dit que c'était variable au point que le boucher qui vendait aussi les journaux marquait sur son ardoise, selon les cas, « Cette semaine, pas de nouvelles, merci à la bande de Kibble » ou « Cette semaine, nouvelle fraîche, la bande à Kibble cuve son whisky ». Et la bande de Kibble ne dit rien ? Le barbier avait haussé les sourcils, puis s'était esclaffé et avait répondu que certainement personne dans la bande à Kibble ne savait lire. En lui massant les joues avec une lotion qu'il avait pris la précaution de lui faire sentir et qui, par chance, n'avait pas été jugée émolliente, Silas avait raconté à Zébulon la dernière entrée en ville de la diligence qui remontait à un peu plus d'un mois. Les conducteurs changeaient sans cesse et le dernier en date, Beg, au plus haut point, était arrivé ventre à terre en fouettant ses bêtes qui saignaient aux épaules et en criant devant lui des bribes de mots incompréhensibles. Tout le monde avait cru qu'il avait une armée d'Indiens à ses trousses et qu'il avait vu en prime l'entrée des enfers au détour d'un canyon. Les hommes avaient couru chercher des armes et des munitions et s'étaient attroupés autour de la voiture pour savoir qui était l'ennemi, en quel nombre et dans combien de temps il faudrait le recevoir. Franklin, l'armurier, était revenu sur son idée de barricade et de sac de sable. On l'avait fait taire. Lorsque le conducteur avait voulu s'exprimer, il était sorti de sa bouche une telle tempête que plusieurs hommes en avaient pris peur. La diligence brinque-ballait sous ses efforts pour dire par geste ce qu'il n'arrivait pas à dire en mots. Les conseils et les ordres pleuvaient sur lui. « Respire, petit, qu'on aille chercher du whisky. Foutez-lui une claque. T'inquiète pas, mon gars, on est là, t'es arrivé. Calme-toi. Whisky, bon sang, whisky !» Puis, au beau milieu de cette pagaille qui tendait à se généraliser, la porte de la diligence s'était ouverte. La pointe d'une ombrelle s'était posée sur le marchepied rudimentaire et à ses côtés, les pieds chaussés de gros cuir d'une grande jeune femme vêtue d'une robe bleue sombre et d'un châle de laine beige. Elle était descendue sans l'aide de personne en disant que leur convoi avait été attaqué 18 miles avant la ville par une bande de brigands qui leur avait dérobé un certain nombre de choses et en particulier un archer sans lequel elle ne pourrait pas jouer l'intégralité de son répertoire. Elle ajouta qu'un jeune homme était parti à leur trousse et que personne, à part lui, ne risquait plus d'en découdre avec ces messieurs dans l'immédiat. Lorsque les hommes avaient compris qu'elle était musicienne, ils avaient poussé des trilles et des vivas et lui avaient fait escorte jusqu'au bar, délaissant complètement le conducteur de la diligence qui continuait de gesticuler sur son siège. Silas avait suivi le mouvement et pris un verre comme tout le monde pour se remettre de ses émotions. La nouvelle venue avait bu son whisky en hommage à la ville d'un coup. Elle s'était présentée comme Arcadia Craig, mais ses amis l'appelaient Archie, musicienne itinérante qui traversait le continent depuis 8 mois de bar en salle de spectacle et jouait partout où on appréciait la musique. Si quelqu'un voulait lui descendre la grande boîte noire arrimée à l'impériale, elle se proposait de donner sur le champ un aperçu de ses talents. Le temps que 3 hommes se précipitent, grimpent sur la diligence, détachent et descendent le gros étui, Archie avait négocié avec Sally les conditions de son contrat. Et après cette première prestation, qui dura 3 jours, elle se vit attribuer la chambre que les filles n'aimaient pas pour le temps qu'elles joueraient au saloon. Le contrat était exclusif. Sally avait servi 4 semaines d'alcool lors de ce premier concert, et même s'il avait fallu accorder 2 jours de repos aux filles et nourrir régulièrement Arcadia qui avait un solide appétit, elle s'estimait plus que gagnante pour sa partie. Zébulon était rafraîchi et rasé de près. Il se levait lorsqu'il demanda au barbier « 3 jours sans archer ?»« Sans archer. C'est quoi comme instrument ?»« Une contrebasse. » Et une contrebasse, c'était un violon de la taille d'une armoire dont on jouait debout en le serrant contre soi. Silas ajouta « C'était fantastique. » Zeb allait s'enquérir des talents de chirurgien du barbier lorsqu'un troupeau des plus gros moutons qu'il ait jamais vu envahit la rue principale avec de tels bêlements que tout à coup, il ne s'entendit plus respirer. Il regarda passer les bêtes, basses sur pattes et gonflées de laine au point qu'on ne leur voyait pas les yeux dans la tête. Les béliers portaient des cornes qui devaient approcher chacune les 6 livres. Ils avançaient comme des brutes en gueulant derrière un homme maigre qui portait à sa ceinture une bourse de sel et leur répondait par toutes sortes de trémolos de gorge. Sans que Zébulon eût besoin de poser la moindre question, Silas l'informa, après que la fanfare fut passée, qu'il venait de voir le troupeau spécial de Nils Antul, par ailleurs pourvoyeur de lits. Zébulon fut tenté de savoir ce qu'il entendait par spécial, mais il pensa que c'était assez flagrant, d'une part, et que d'autre part, son logeur lui en dirait davantage. Zeb n'avait pas de passion particulière pour le bétail. Il reprit sa sacoche sur le bras du fauteuil, paya le barbier et lui demanda s'il pouvait venir jeter un œil à un jeune homme blessé à l'épaule, allongé sur un des lits de camp du gardien de troupeau qui venait de passer. Zébulon précisa que c'était une blessure par flèche et que le jeune homme avait probablement la fièvre. Silas se lava les mains, rassembla des instruments coupants et des serviettes dans une cuvette, retourna la pancarte clouée à la porte de son échoppe et déclara à Zébulon qu'il le suivait. La clochette tinta lorsque le barbier ferma la porte au loquet. Bird Boisvert tourna la tête en direction du bruit. Il vit les 2 hommes sortir d'une baraque à laquelle était pendu le bâton rouge et bleu qui sert d'enseigne au tailleur de poils. Le grand type efflanqué attira son attention, comme s'il y avait en lui quelque chose de familier. Pourtant, Bird était sûr de ne l'avoir jamais rencontré. Peut-être sa façon de marcher lui rappelait-elle quelqu'un ou sa façon de porter le pistolet entre le coude et la hanche. Le barbier trimbalait des trucs qui cliquetaient dans une bassine blanche. C'était un homme de taille moyenne, solide comme un petit buffet. Il portait une barbe cultivée avec soin. Pour le reste, Ses pantalons étaient luisants aux cuisses et la chemise sous sa veste de peau constellée de médaillons. Les deux types jetèrent un regard à Bird avant de lui tourner le dos et de remonter la rue. Le grand s'attarda un peu plus que l'autre. Bird ralentit son pas, il ne voulait pas avoir l'air de les suivre, même si c'était eux qui s'étaient mis à marcher devant lui. Cela faisait plusieurs mois qu'il n'était pas entré dans une ville et il n'était plus très au fait de ce qui s'y faisait ou pas. Il ne voulait pas d'embrouille. 20 minutes auparavant, à 600 mètres de la première baraque, il avait mis pied à terre et tenu son cheval par la longe. Ils étaient restés immobiles, lui et sa bête, un petit moment. Ils avaient regardé solennellement la ville dans laquelle ils s'apprêtaient à entrer, mais avant qu'ils ne fassent le premier pas, le cheval avait tendu l'oreille vers l'est et Bird, tournant la tête, avait vu arriver un troupeau. Il avait décidé de le laisser passer. De leur poste légèrement en retrait, ils avaient observé le berger mener ses bêtes jusqu'au bout de la rue et les pousser plus loin sur la droite, vraisemblablement dans un enclos qui leur était réservé. Quand la poussière soulevée par le troupeau était retombée, Bird était entré en ville avec son cheval et c'est en marchant côte à côte qu'il remontait la grande rue en regardant à droite et à gauche les baraques qui craquaient au soleil sur leurs planches mal jointes. Ils avaient passé un saloon peint en rose autour d'une annonce qui vantait les petites pêches de Sally. Mis à part ses portes qui étaient complètement défoncées, il n'avait pas mauvaise mine et Bird regrettait de ne pas avoir un demi-dollar en poche pour se payer un coup. Ou même 20 cents qui lui aurait permis de s'en jeter un, accoudé à une caisse au bord de la rue. Mais il n'avait rien, et il ne voulait pas d'embrouille. Il ne s'était pas attardé. Ils avaient passé une bonne longueur de tente solidement plantée. Par les ouvertures triangulaires, Bird avait vu des hommes assis qui fumaient et discutaient entre eux. Il avait vu une partie de cartes disputée sur un tonneau entouré de rondins en guise de siège. Une transaction en cours, dont l'objet était un long couteau de chasse qui brillait dans l'ombre. Il avait vu un plancher extérieur tout neuf devant une grande tente à laquelle pendaient, en devanture, de petites casseroles en cuivre et des miroirs. À l'intérieur, on devinait un amoncellement de pots, de lampes, de sacs et d'outils, et cette profusion avait fait vibrer le cœur de Bird. Ils avaient passé un armurier, puis encore une série de tentes des deux côtés. 8 bœufs étaient couchés les uns derrière les autres, devant des chariots bâchés qui camouflaient l'entrée des deux dernières. Le cheval s'était ébroué en défilant devant les bêtes. Ils avaient passé devant une baraque qui proposait de l'Irish Stew, mais pas de journal cette semaine. D'appétissants morceaux de bœuf étaient crochetés à l'intérieur. Bird salivait en approchant l'échoppe du barbier et il se félicitait de s'être rationné sur la viande de daim qu'il avait prise avec lui. Ce soir, il aura au moins de quoi manger. Et maintenant, il suivait les deux hommes qui venaient de sortir de la boutique en prenant soin de ne pas le faire de trop près. En voyant le troupeau, Bird avait décidé de proposer ses services au berger pour commencer, en échange du lit et du pain. L'ovin n'était pas un bétail bien noble, mais il n'avait pas le choix et il essaierait de s'en contenter, pour commencer. Nils Antull était dans l'enclos des moutons lorsqu'il vit Silas et un inconnu se diriger vers la tente numéro 2. Et comme le barbier portait sa bassine sous le bras, Nils supposa qu'il y avait un autre inconnu dans un de ses lits, trop mal en point pour aller se faire raser. Il espéra qu'il ne mettrait pas du sang partout sur ses couvertures. Il secoua la tête et saisit son tabouret de traite pour passer à la brebis suivante. Il se mit à la traire patiemment. Alors qu'il avait tiré ses 3 litres et qu'il s'apprêtait à enlever le seau, elle chia dedans. Nils jura entre ses dents, mais ne toucha pas la bête. Il plongea la main dans le baquet et retira une à une les petites boules qui laissaient un sillon chocolaté dans le lait blanc. Il marmonna quelque chose pour lui, assez bas pour qu'on ne le comprenne pas, assez fort néanmoins pour que Bird entende qu'il parlait. Nils était tellement concentré sur sa pêche qu'il n'avait pas senti qu'un homme et un cheval le regardaient travailler. Il s'était approché des barrières si doucement que son troupeau ne l'avait pas signalé. Quand il releva la tête pour passer à la brebis suivante, Nils ne marqua aucune surprise. Il nota tout de suite que le cheval n'était pas ferré, une bonne raison pour ne pas l'avoir entendu arriver. C'était un poney indien équipé d'un licol en corde de crin. Pas de selle, pas de tapis de selle, rien que 2 bottes de cuir qui pendaient de part et d'autre de l'encolure. Quant au type, même vêtu comme il l'était, pantalon de grosse toile et jambières de peau, chemise de laine, veste de drap et manteau de cuir, le tout couronné d'un feutre mou qui avait visiblement écopé plus d'un orage, Malgré cela, il avait l'air plus nu que la main. Il n'était pas lourd, tout en muscles. Son visage et ses mains étaient tannés par le vent. Il avait de la corne sur les paumes, il ne se pressait pas de parler et son expression tranquille trahissait l'habitude des bêtes obstinées. Nils était sûr d'avoir devant lui un cow-boy qui n'en était plus à son premier convoi. Il se retint de le saluer. Les vachers méprisaient les moutons. Et Nils méprisait les vachers même s'il reconnaissait à certains du métier. Bird était appuyé à la barrière en bois de l'enclos et regardait le grand homme sec traire ses brebis l'une après l'autre. Ses gestes témoignaient d'une longue habitude. Il devait aimer ses bêtes comme tous les racleurs de laine. Il ne les bousculait pas, il leur parlait entre ses mâchoires serrées. Bird ne savait pas s'il le faisait parce qu'il était là ou si c'était toujours comme ça. Il n'avait peut-être pas entendu venir, mais il n'aurait pas parié là-dessus. Ce n'était pas un type qu'on surprenait facilement. Il était grand, sec, plutôt jeune, et cela pouvait servir Bird. Il portait ses longs cheveux blonds rassemblés en une queue de cheval dans le dos, ce qui signifiait qu'il savait défendre son scalp. Il n'avait pas d'arme à feu à la ceinture, mais son fusil était appuyé dans un angle de l'enclos. Et à côté de la bourse à sel, il avait un fourreau d'une trentaine de centimètres qui pendait contre sa hanche. Bird avait eu tout le temps de regarder le troupeau. Il était en bonne santé. Trois brebis toussaient profond et un des agneaux avait une gale, il savait comment faire. Un bélier boitait bas et sa patte puait sérieusement. Bird savait aussi comment s'y prendre pour ce genre de choses, mais c'était assez radical et ça n'allait pas être sa première proposition. À part ces cinq bêtes, les autres pétaient le feu, et malgré leurs petits yeux louches de chaque côté de la tête, très écartés, elles avaient l'air relativement éveillées pour des brebis. Leur seul problème, de l'avis de Bird, ce devait être leur toison. Il prit une bonne inspiration et, comme le berger se rassaillait devant les pies gonflées d'une nouvelle bête, il se lança. « Elles arrivent à se lever le matin ?»« Non, trop de laine sous le ventre. Quand elles se couchent, elles y restent. Couchées. Comment vous faites ?» Nils tendit les bras devant lui, paume ouverte vers le sol, ferma les mains et monta les bras avant de les rouvrir. « Combien de temps ça vous prend ?» Il y avait 150 moutons. Dans l'enclos, la manœuvre nécessitait à peu près une heure de travail. Dans la prairie, à cause de la distance entre chaque bête, cela pouvait être beaucoup, beaucoup plus long. « Je vous les lève demain en une demi-heure. » Nils ne répondit rien, mais regarda le cow-boy dans les yeux pour la première fois. « J'ai besoin d'un lit et d'un repas. » Nils changea à nouveau de brebis. « Tu sais traire ? Les vaches. Tu aimes ça ? Non. » Nils pensa que c'était le premier cow-boy qu'il rencontrait qui ne lui mentait pas alors qu'il crevait la dalle. Il se retint de lui jeter un autre coup d'œil. Tel qu'il commençait à le connaître, il n'aurait aucune expression. Il attendit un peu pour ne pas avoir l'air de se précipiter, puis il dit « C'est un croisement d'Angora et de Mouflon du Shasta. Elles doivent être debout à 5 heures pour la première traite. Tu les lèves, rien d'autre. Tu demandes un lit à mes filles dans la tente centrale, celle qui a le tissu rouge. On mange dans 1 heure. » Dans la tente numéro 2, le barbier était en train de terminer un pansement autour de l'épaule d'un jeune homme dont les yeux étaient chargés de fièvre et de larmes. Par discrétion, Bird ne les regarda pas et se dirigea vers le lit numéro 20 qui lui avait été attribué. Il posa ses affaires, c'est-à-dire ses bottes et son fusil, et tâta les couvertures. Elles étaient épaisses comme un nuage et tièdes au toucher. Il n'en fut pas surpris. Les moutons étaient plus que généreux, et Isl et Christophia savaient s'y prendre avec la matière. Quand il était entré sous la tente, la plus jeune, la plus blonde, la plus jolie des deux, Christophia, qui avait de grands yeux bleus, était en train de tricoter une culotte dans laquelle Bird avait eu tout de suite envie de se glisser. Elle l'avait remarqué et lui avait souri. Bird s'était demandé s'il n'était pas allé trop loin, bien qu'il n'ait absolument rien dit. Ils l'avait vu rougir jusqu'au cuir chevelu et lui avait demandé un peu brutalement ce qu'il voulait. Bird s'était repris et avait expliqué qui l'envoyait et pourquoi. Pendant qu'elle regardait ce qui restait de lit pour la nuit dans un grand registre couvert de croix et de traits obliques, Bird avait entendu passer un cavalier. Il en avait ressenti un certain malaise, mais sans pouvoir se l'expliquer. Il aurait volontiers jeté un coup d'œil dehors pour voir qui se promenait à cheval, si près du campement. Mais Christophia était en train de lui tendre sa plaque de bois gravée et de lui expliquer l'organisation des lieux. Elle lui indiqua pour finir le corral d'où venait de sortir la monture d'un monsieur Zébulon qui était arrivé récemment et se trouvait être logé dans la même tente que lui, avec son ami Josh McPherson, qui n'était pas en forme. Et 10 minutes après ses présentations sommaires, le Josh en question tendait l'index vers les bottes que Bird venait de poser sur son lit numéro 20. Il remuait les lèvres en tremblant et en répétant « Mes bottes, mes bottes !» parmi tout un récit décousu. Bird refusa d'accorder trop d'attention à ce que disait ce type visiblement atteint par une forte fièvre. En même temps, il n'allait pas supporter toute la soirée ses jérémiades. Il ôta ses godillots crevés, enfila ses satanées bottes, colla le fusil au creux de son bras et sortit, sans regarder le barbier qui rassemblait ses affaires. Silas trouvait le jeune homme trop affaibli pour une simple blessure par flèche. Il espérait qu'elle n'avait pas été empoisonnée. Les Indiens connaissaient des trucs foudroyants, mais ils connaissaient aussi des poisons plus insidieux qui mettent des semaines à tuer leur homme. Même si ça n'avait pas autant d'ampleur, en termes de souffrance et de laideur, ça valait bien la variole. À cette pensée, Silas se nettoya les mains au whisky et en but une bonne gorgée. Il toucha le jeune homme au poignet et lui dit de se calmer. Il retrouverait ses bottes, il retrouverait ses forces, et tout irait pour le mieux s'il arrivait à se reposer. Là-dessus, il lui tendit un gobelet d'ognol qui le força à ingurgiter. Josh s'en étouffa à moitié, mais l'alcool, en passant dans son gosier, lui apaisa les boyaux en même temps que l'esprit. Il se renfonça dans son oreiller et cessa de s'agiter. Silas lui dit que son ami ne tarderait pas à revenir et que ce qu'il avait de mieux à faire pour l'instant, c'était dormir. Puis, il le laissa et partit sur les pas de l'homme qui s'était empressé de mettre ses bottes quand Josh les avait montrées du doigt. Il franchit le seuil du royaume de Nils Antul, plongé dans des réflexions décousues sur la propriété, sa nature et sa circulation problématique. C'était un extrait du livre « Faillir être flingué » de Céline Minard aux éditions Rivage.